Alors ce texte, vous le connaissez tous très bien, on prend souvent, c'est un texte qui est une métaphore assez visuelle, assez parlante, mais vous m'avez été beaucoup de sérieux, et que j'ai essayé de lire ça sérieusement, comme je le fais actuellement. Mais très sincèrement, si on écoute vraiment ce que dit Paul, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais je me demande, son texte est assez drôle. Si on essaye d'imaginer ce qu'il nous dit, si tout le corps était une oreille, alors représentez-vous si notre corps n'était qu'une oreille, ce serait presque ridicule. Si tout le corps n'était qu'un œil, et puis tout ce qu'il nous raconte, ça semble tellement évident, ben, évidemment l'œil n'est pas tout seul, l'oreille, ça semble un peu une prédication pour des petits-enfants, des tout petits bébés. Alors, l'église de Corinthe, ce n'était pas des bébés, ce n'était pas des enfants, mais c'est comme toutes les églises. Souvent, tout adulte que nous sommes, nous ne nous comportons pas tellement différemment que ces enfants que nous essayons d'éduquer. Et à Corinthe, le problème qu'il y avait, c'est que chacun voulait faire l'église tout seul et sans trop se soucier des autres. Alors Paul leur envoie cette comparaison avec beaucoup d'humour, y compris sur les membres qui sont, que nous tenons pour moins honorables, mais que nous traitons avec un infini respect. Mais je reviens un instant au texte de la Genèse qui me semble exprimer l'un des piliers de notre foi et que nous avons aussi en commun avec bien d'autres religions. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et alors il faut être honnête, ce n'est pas écrit de cette manière dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on nous dit que nous sommes des créatures de Dieu. Et il y a une différence. Mais nous sommes chrétiens et nous lisons ces textes de l'Ancien Testament à partir de la révélation qui nous a été faite par Jésus-Christ, qui lui nous apprend que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons relire ces textes, et ça ne les fait pas mentir, en y entendant que la relation qui unit tout être humain depuis l'origine est une relation d'un enfant, d'un fils ou d'une fille, à un père bienveillant, un père qui se réjouit de l'enfant qu'il a eu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous l'avons dit pour Théo. Ses parents veulent le vivre avec lui, et peut-être ses grands-parents, je l'espère, le parrain et la marraine, peut-être ses oncles et tantes. Nous sommes des enfants de Dieu, mais la question qui se pose, c'est ce Dieu, qui est-il ? Puisque vous savez, ce texte de la Genèse, on le partage avec d'autres religions, en gros avec tous les enfants d'Abraham. Ce Dieu qui est là pour nous chaque instant dans le silence, dans le secret, ce Dieu que nous pouvons prier, auquel nous pouvons parler, que nous pouvons invoquer, ce Dieu qui accueille nos questions compliquées ou toutes simples, nos doutes, nos incertitudes. Ce Dieu, finalement, qui est-il ? Et c'est là l'enjeu de ce baptême de Théo. Si nous voulons vraiment devenir enfants de Dieu comme Christ nous y invite et comme nous venons de le dire pour Théo, alors il faut chercher à connaître mieux ce Dieu que nous appelons Père. Et si nous voulons vraiment le connaître, notre prière, notre foi, ne peut pas se nourrir seulement de nous-mêmes. Nous sommes invités chacun à une relation personnelle avec Dieu, mais nous ne pouvons pas vivre ça uniquement seul, dans le secret de notre cœur. La particularité du christianisme, c'est que ce n'est pas une révélation individuelle, quelque chose qui apparaîtrait d'un coup dans la vie de chacun. La particularité du christianisme, c'est que c'est une révélation de Dieu lui-même, mais qui s'est passé à un moment bien précis, dans un endroit bien précis, et dont on a gardé la mémoire, et c'est à travers cette mémoire et cette transmission que nous pouvons connaître qui est le Dieu de Jésus. christianisme, et ça paraît souvent un peu étonnant et mystérieux et compliqué, Dieu a choisi de se révéler il y a 2000 ans dans un tout petit pays, auprès d'un peuple assez insignifiant, disséminé. Il a choisi de se révéler à travers les paroles d'un homme issu d'un milieu rural, méprisé par les citadins, né dans une crèche, mort sur une croix. Et Dieu, de cette manière, s'est révélé là où personne ne l'attendait, même si nous, après 2000 ans, nous sommes habitués à la chanson, à l'histoire. En fait, si nous regardons avec un peu de recul, personne ne pouvait s'attendre à ce que Dieu se révèle à cet endroit. Et c'est bien difficile pour nous de toujours voir ce Dieu tel qu'il se révèle en Jésus-Christ, de voir vraiment ce que lui révèle de lui-même, non pas toutes les idées que nous avons déjà dans nos têtes et que nous posons en fait sur la révélation de l'Évangile. Dieu se révèle pour nous chrétiens à travers, bien sûr, tous les textes de la Bible et ceux qui préexistent à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais tout particulièrement dans cette annonce et dans cet évangile qui donne un relief, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous les textes anciens, jusque même ceux de la Genèse. L'enjeu de notre vie de foi, c'est que dans la prière, dans notre vie de quotidienne, ce soit véritablement le Dieu de Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer. Et non pas seulement le Dieu de nos habitudes, le Dieu de nos rituels, le Dieu de notre doctrine apprise ou oubliée, mais qui est toujours là et qui malheureusement tend souvent à se substituer à la puissance de l'Évangile. Tout à l'heure, nous avons baptisé Théo au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous l'avons baptisé au nom de la Sainte Trinité, comme on peut le dire dans certaines églises. C'est ce qui fait que ce sacrement est reconnu par toutes les églises. Mais pour ce mot de Trinité se pose également la question de savoir à qui l'on s'adresse. Cette Trinité, est-ce que c'est simplement une vérité doctrinale, objective, et qui risquerait d'être morte? Ou est-ce que c'est un symbole vivant pour dire la vérité de Dieu dans notre vie aujourd'hui, dans la vie de Théo, dans la nôtre chacun? La Trinité, je le crois fermement, n'est pas un concept qui préexiste au christianisme. La Trinité, c'est la manière d'exprimer comment Dieu se manifeste aux humains selon la révélation du christianisme. C'est dans les premiers siècles du christianisme qu'on a trouvé ce symbole extraordinaire et qui dit tellement bien qui est le Dieu que nous rencontrons en Jésus. Mais je pense qu'il est nécessaire de bien savoir dans quel sens vont les choses. Ce n'est pas la Sainte Trinité qui s'est incarnée dans Jésus-Christ. C'est cette parole qui a résonné dans un homme tout faible, a témoigné d'un Dieu tellement grand, tellement mystérieux, qu'il a fallu, pour lui parler véritablement, trouver des symboles qui soient à la hauteur de qui il est vraiment. Et ce Dieu de Jésus-Christ, il est véritablement un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Esprit. Et tout cela à la fois. Il est véritablement un Dieu qui se donne continuellement. Un Dieu qui n'existe que par le don de lui-même. C'est ce qu'enseigne la doctrine classique de la Trinité. Mais tout cela, ça vient simplement de l'observation de qui était ce Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui a reconnu dans le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu véritable, le Dieu créateur et père, mais qui nous a expliqué que ce Dieu créateur et père ne venait jamais comme ça dans l'absolu du haut de sa puissance, et qu'il venait dans la faiblesse en se donnant lui-même pour que les humains aient vie à travers le Fils et à travers l'Esprit. Ce Dieu trine, ce Dieu trois fois un, ce Dieu infiniment grand et bon, c'est vers lui qu'il nous faut nous tourner chaque jour. Mais vers lui véritablement, et ça implique un certain chemin, parce que spontanément, ça ne nous est pas facile d'entrer dans cette logique trinitaire que la vie de Dieu se dit dans un don continu. Je suis un enfant du Père, donc je me donne à l'autre pour que Dieu puisse se rendre visible dans ma propre vie. Alors, bien sûr, pour connaître ce Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu de la bonne nouvelle, ce Dieu de la résurrection, eh bien, il nous faut nous confronter au quotidien à cette Bible que nous lisons chacun seul peut-être, mais qu'il est plus facile de lire en communauté pour la discuter. Et bien sûr, on ne peut pas en une seule prédication, en un seul culte, ni même en une seule année de catéchèse, exprimer tout ce qui se tient derrière l'annonce de l'Évangile. Alors il faut prendre les textes les uns après les autres. Pour aujourd'hui, j'ai pris ce texte du corps du Christ qui est très parlant et qui peut nous donner un message assez facilement, même si nous n'avons pas trop l'habitude peut-être de lire ces textes-là. Ce texte, je le reprendrai lors d'un autre culte dominical pour l'approfondir, parce que je crois que nous avons quelque chose à vivre de cet ordre l'exhortation de Paul à redécouvrir le corps du Christ. Je vais simplement terminer par trois remarques sur ce texte. Je vous inviterai à reprendre chez vous. L'apôtre Paul, je l'ai dit, est confronté à une communauté, la communauté de l'église de Corinthe, une communauté qui est très semblable à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, sinon dans notre église, tout au moins dans notre monde. Il y a 2000 ans, ça pourrait sembler être une époque complètement révolue, mais c'était une époque où on connaissait un peu de la même manière qu'aujourd'hui, dans une échelle plus réduite, une mondialisation. C'est-à-dire des peuples qui avaient l'habitude de vivre chacun dans leur terroir, tout à coup étaient pris dans la logique du monde de l'Empire romain, la logique d'une vie à l'échelle du bassin méditerranéen, une vie où il y avait beaucoup d'échanges économiques, une vie où il y avait beaucoup de différences de revenus, de culture, etc. Et toutes ces choses-là se retrouvaient à l'intérieur de l'église de Corinthe. Ce n'était pas toujours si simple d'accommoder toutes ces personnes si différentes. Et Paul, pour essayer, je ne sais pas s'il y est arrivé, pour essayer de regrouper sa communauté véritablement autour du Christ, Paul ne fait pas un cours d'ecclésiologie. Paul, je m'explique, Paul ne dit pas quelle doit être l'Église véritable, comment elle doit être organisée. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu dire, écoutez, moi je suis envoyé par Dieu, c'est moi qui ai l'autorité, alors écoutez, je vais vous expliquer comment on va organiser l'Église. Il ne fait pas ça. Il prend la métaphore du corps. Et ce qu'il nous dit là-derrière, c'est quelque chose qui est bien au-delà que la simple unité au sein d'une église ou à travers nos différentes églises. C'est l'union des chrétiens dans ce qu'il appelle le corps du Christ. Et sur ce corps de Christ, je dirais simplement trois choses que je développerai plus tard. Ce corps du Christ, le texte de Paul en Corinthiens 12 n'est pas forcément explicite à ce sujet. Mais je crois qu'il dépasse toutes les idées que nous en avons pour être quelque chose qui veut englober toute la création. Et de cela, j'en veux le témoin, le psaume 148 que j'ai lu tout à l'heure. Loue est le Seigneur depuis les cieux, loue-le dans les abîmes, loue-le toute la création, loue-le le soleil et l'île, tous les astres de la terre, toutes les montagnes et les collines, etc., etc. Il y avait déjà dans le peuple juif la conscience que toute la création, en fait, est en communion et au service du Seigneur Dieu. Ce que nous dit Paul, il l'applique essentiellement aux humains, mais je crois que c'est appelé à s'étendre au-delà des seuls êtres humains à toute la création. Ce corps du Christ, je crois qu'il doit se vivre au-delà de notre seule humanité. La deuxième chose, c'est ce que j'ai déjà dit à l'instant, mais qu'il faudra rediscuter et que chacun est appelé à vivre. C'est que le corps du Christ, ce n'est pas d'abord une institution. Le corps du Christ, c'est d'abord la manière dont chacun se saisit de la parole de paix, d'amour, de confiance de l'Évangile, la parole qui fait de nous des enfants de Dieu, et qui arrive à se lier par la prière en esprit à tous les autres frères et sœurs en Christ, et moi je vais plus loin, je dis frères et sœurs en humanité. Et là, il y a là un défi. Ce n'est pas facile de faire corps. Ce n'est pas facile de se relier en prière avec ceux qui sont différents, avec ceux qui, au quotidien, peut-être sont chrétiens comme moi, mais ne pensent pas comme moi, ne votent pas comme moi, n'agissent pas comme moi, peut-être m'agressent, ou peut-être avec lesquels je me suis heurté. Et pourtant, ce corps de Christ, ce que nous dit Paul avec puissance, c'est que nous le voulions ou non, c'est ça la réalité. La réalité, c'est celle d'un corps et on y est ensemble. On ne peut pas l'ignorer. Je vous le dis encore une fois, le texte est absolument explicite, il suffit d'entendre ce qu'il nous dit. La troisième chose, et je terminerai par cela, ce corps du Christ, et ça c'est notre chemin de chrétien et c'est aussi notre joie de chrétien, le corps du Christ, c'est un lieu au-delà des structures ecclésiales, au-delà des maisons dans lesquelles nous habitons. C'est un lieu où chacun est accueilli, quel qu'il soit. Paul le dit bien, tous les membres, quelle que soit leur qualité, plus ou moins grande, plus ou moins haute, chacun est investi, intégré dans ce corps du Christ, chacun est attendu. On ne peut pas faire sans les autres et on ne peut rejeter personne dans ce corps-là. Voilà, nous sommes chacun enfants de Dieu, petits-enfants, parents, grands-parents, jeunes ou anciens. Nous sommes chacun appelés à vivre quotidiennement de cette joie d'être aimés par un Dieu créateur infiniment bon, mais nous sommes appelés à progresser toujours dans la connaissance de qui est ce Dieu, que veut-il pour nous. Et c'est ce que je souhaite à Marianne et à Frédéric, pour vivre avec Théo, toujours mieux ce à quoi l'Évangile nous appelle, mais c'est bien sûr ce que chacun de nous sommes appelés à vivre. Tout à l'heure, nous avons pris des engagements d'être la famille spirituelle de Théo, par-delà nos confessions religieuses. Pour être sa famille spirituelle, alors nous devons marcher devant lui et avec lui sur ce chemin.